Jérémie 18, verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» dit l'Éternel. « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Amen. On trouve très souvent dans les Écritures un langage qui est très illustré, qui est imagé. Dieu dit dans Osée chapitre 12, « J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. » Darby a traduit d'ailleurs, « J'ai parlé en similitude, en choses semblables, en correspondance, en ressemblance. » Dieu, dans sa grâce, se sert des choses de la nature, il se sert des choses de tous les jours, de la vie courante, pour que nous percevions la pensée, sa pensée, que nous percevions son enseignement. Jésus a beaucoup parlé, hein, vous le savez bien, en parabole, je ne vous apprends rien. Et nous remarquons, par exemple, que dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, le Saint-Esprit qui inspire l'apôtre Paul se sert d'une image. Il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre ». Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et ce trésor, c'est d'abord le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quelle grâce, quel privilège est le nôtre de porter le nom de Jésus-Christ, de le porter. Amen. Alors, le vase de terre, c'est l'image de la faiblesse des êtres humains. Bien d'accord. C'est pas solide, obligatoirement, un vase de terre. Dieu l'a permis ainsi afin que toute la gloire lui revienne, elle lui appartient, elle lui appartient. D'ailleurs, on remarque qu'à la sortie du jardin d'Éden, le Seigneur a rappelé à l'homme sa faiblesse, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le travail d'un potier, c'est un travail qui est plein d'instructions. Je suppose que la plupart d'entre nous peut-être ont vu des potiers à l'œuvre. C'est extraordinaire, moi je suis toujours admiratif de voir comment ils arrivent à sortir des choses magnifiques avec leurs mains, ils ont une habileté extraordinaire, vous ne trouvez pas? Ils utilisent d'ailleurs différentes sortes de terre, et puis aussi différentes températures de cuisson. Alors, le divin potier, il fait de même, hein, il nous a créés tous différents. Il n'y en a pas deux pareils. Le Seigneur est merveilleux, gloire à son nom. David pouvait dire, c'est au psaume 139, « C'est toi qui as façonné mes reins, tu m'as pétri dans le sein de ma mère. » C'est la version du rabbinat. « Tu m'as pétri dans le sein de ma mère. » Le but du potier, c'est de faire d'une masse informe un vase ou un objet qui va être utile ou un objet d'ornement. Alors, dans notre lecture, nous avons vu que Jérémie obéit. Il obéit tout simplement à l'ordre de Dieu, il descend dans la maison du potier. Alors, il voit que le vase qui a été réalisé est défectueux. Le mot dans le texte original peut être traduit par corrompu, ruiné, gâté, détruit. On peut dire qu'il a suffi à l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, d'un moment d'égarement. Un seul moment d'égarement pour corrompre toute la merveilleuse création de Dieu. Le péché est entré dans le monde, et comme le dit Romains 8, 22, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Alors, dans notre lecture, nous avons vu que le potier ne répare pas le vase. Le vase, il est défectueux, il ne le répare pas, mais il fait un autre vase, il fait un vase neuf, un nouveau vase. Et dans ce vase qui est raté, nous avons toute l'image de l'homme naturel qui a sombré dans le péché, de l'homme déchu. Dieu fait cette constatation dans Michée chapitre 7, « Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. » Eh bien, c'est pour des ronces et des buissons d'épines que Jésus est mort sur la croix. C'est quelque chose d'extraordinaire, vous ne trouvez pas? C'est ce que dit aussi Romains 5:8, « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il n'y a aucune restauration possible pour le vase raté. Il est une chose qu'il nous faut bien réaliser. Dieu ne va pas réparer le vase. Il a raté sa vocation, il a été souillé par le péché, il ne peut pas le réparer. Il ne peut en améliorer la nature pécheresse. Elle est détériorée pour toujours à cause du péché, il ne la réparera pas. Il faut que nous soyons, en tant que chrétiens, conscients des dégâts que fait le péché et qu'a fait le péché dans le monde. Le potier fera un autre vase. La conversion, vous le savez, et la régénération d'un être humain n'est pas l'amélioration de sa nature pécheresse. Il faut du neuf. Il faut du neuf. Il faut une nouvelle naissance. Il faut un cœur nouveau. Il faut devenir un vase neuf pour le service de Dieu. Vous savez bien, et vous connaissez tout cela, bien sûr, aussi bien que moi, ce que Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est vrai que, quelquefois, il y a des gens qui s'imaginent qu'il suffit d'adhérer à une assemblée, d'adhérer à une religion pour connaître le royaume de Dieu. Quelle folie! Il faut devenir un vase neuf. C'est indispensable. Il faut être lavé de son péché. Il faut devenir une nouvelle créature. Celui qui s'est converti à Jésus est devenu un vase neuf, capable de participer à la nature divine, à son caractère divin. Il est une nouvelle création dans laquelle le Saint-Esprit va déposer un trésor. C'est Éphésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le potier donc fait un nouveau vase. Et ce vase nouveau va correspondre aux critères divins, aux exigences divines. Le vase nouveau, il est parfait. Il plaît. Aux yeux du Seigneur, le nouveau vase, c'est d'abord Jésus-Christ, le nouvel Adam. Nous sommes destinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ, à manifester la vie de Jésus, manifester la vie de l'homme nouveau. Mais vous savez, pour la manifester, cette vie, il faut être rempli. Il faut que le vase soit rempli du Seigneur lui-même, de sa vie, de son esprit, de son amour, de ses sentiments. C'est indispensable. Et pour être rempli de Christ, il faut accepter d'être vidé de soi-même. C'est pas possible. Les deux choses sont incompatibles. Pas vidé de sa personnalité, on est bien d'accord, mais vidé du vieux moi. C'est pas très belle peut-être cette expression-là, le vieux moi, mais vidé du vieux moi. Et vous savez, notre foi avait été éprouvée, car le but, c'est d'atteindre la ressemblance de Jésus-Christ. Le but, c'est de porter le nom du Seigneur. Vous savez, l'épître de Jacques, c'est pas toujours un évangile à l'eau de rose. Excusez-moi, c'est pas moi qui l'ai écrit, il a été inspiré par l'Esprit. Qu'est-ce qui est dit ? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Waouh ! C'est pas facile ça à avaler, hein ? Alors, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, accompli, sans faillir en rien. Vous êtes assez patient ? Non ? Pas tout à fait ? Vous êtes parfait ? Non ? Pas encore ? Bon. Vous êtes accompli ? Vous êtes arrivé au bout ? C'est la perfection, c'est extraordinaire ? Non ? Eh bien, mes frères et mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience.
Amen.
Amen. Ah oui, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, c'est vrai que nous avons des choix à faire. Il est impossible que le vase soit plein de lui-même et rempli aussi de l'Esprit de Dieu. Il faut mettre sur l'autel notre orgueil. Amen. Notre vanité, nos prétentions à diriger notre vie comme bon nous semble. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Jérémie 10, 23, « Je le sais, ô Éternel, il est bon que nous le sachions aussi, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de nous laisser conduire par l'Esprit.
Amen.
Et non pas par nos pensées charnelles, humaines. Que le Seigneur nous donne cette sagesse. Vous savez, nous en avons vraiment besoin. Nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit. Sans renoncement, le vase ne peut pas être utile. Nous aimerions, nous, avoir une vie chrétienne qui soit pépère. Excusez-moi le mot. Pépère, tranquille et sans aucune difficulté. C'est notre chair qui nous communique hein, ces pensées-là. Hein, on aimerait ça, que ce soit transat, tranquille, paisible. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Alors si nous rencontrons des difficultés, enfin, je parle de difficultés qu'on n'a pas souhaitées, qu'on n'a pas cherchées, volontairement, elles ont pour but de nous façonner à l'image de Christ. Jésus a pu dire « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Mais la suite, elle m'intéresse quand même. Ah ben la suite, j'en ai besoin, moi, pour m'encourager. « S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Alors, il y a les deux choses là, dans ce passage. Hein. C'est intéressant parce que certains vont entendre notre témoignage. Et puis après, ils vont nous faire toutes sortes de misères ou de difficultés, et puis les autres vont recevoir la parole. Amen. C'est ça le problème. Mais nous sommes là pour, en effet, pour témoigner, être des témoins de Jésus-Christ, et c'est pas toujours sans difficulté, sans persécution. Le mot est quelquefois fort, peut-être chez nous, je ne sais pas. Bien que certains, dans certains foyers ou certaines maisons, des frères et sœurs sont persécutés en France. Hein. Ne l'oublions pas. Prions pour ceux qui sont persécutés au loin, mais aussi pour ceux qui sont persécutés auprès. Nous avons besoin de les soutenir. Nous remarquons que Jésus va dire à Ananias, au sujet de Saul de Tarse, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Je vous lis la traduction d'Arbi. « Va, car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël, car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. » Cet homme est un vase d'élection. Oui, je crois que nous aussi, parce que nous sommes nous aussi appelés à porter le nom de Jésus-Christ au milieu de ce monde. Il y a un chant qui dit « Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. » Alors le vase de terre, il appartient au Seigneur. Il appartient au Seigneur, le vase de terre. Mais quelquefois, vous savez, il faut en accepter le brisement. Oh, c'est pas un mot. Excusez-moi, je ne cherche pas à, à vous plaire ce matin. Pardonnez-moi. Le brisement, c'est pas un mot qu'on aime beaucoup, ça. Vous savez ce qui s'est passé à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, hein? Une femme qui est entrée avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle en a brisé le vase, elle a répandu le parfum sur la tête de notre Seigneur. Le brisement, il est quelquefois utile pour que se dégage la bonne odeur de Christ, se dégage le parfum, c'est en quelque sorte comme si nous mettions le parfum sur la tête du Seigneur, quand au milieu du brisement, nous restons fidèles au Seigneur, et que nous restons fidèles dans la louange au Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Le brisement n'est pas agréable à la chair, mais c'est souvent là que s'exhale le mieux le parfum de Christ. Alors, on aimerait bien être un vase d'élection, bien sûr, mais sans connaître de tribulation, sans connaître de difficultés. Le premier qui nous dit quelque chose, vous savez, ou qui dit quelque chose de mal sur nous, celui-là, il va m'entendre. Attends un peu, bouge pas. Non. Autrement dit, on remplit le vase de fleurs fanées et malodorantes de l'esprit de ce monde, en décadence. Et c'est parce que le vase est plein du moi que l'on ressent tant de blessures aussi, quelquefois, de la part de notre prochain. Quand quelqu'un est mort, il ne ressent plus rien. Bien sûr. Mais si mon vase est rempli de Christ, je vais manifester la vie de Jésus-Christ. Et la vie de Jésus-Christ, par exemple, 1 Pierre 2,23, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà l'attitude qui est la nôtre en Jésus-Christ. Manifester la vie de Jésus-Christ. Quand les autres nous maltraitent, nous injurent, lient, que le Seigneur nous fasse grâce. C'est ça le christianisme aussi. Alors c'est malsain, bien sûr, vous le savez, de faire entrer le ressentiment, la rancune, je ne dis pas la haine, parce que les chrétiens, normalement, il ne devrait pas y en avoir quand même, la haine dans les cœurs. Mais sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous savez, c'est écrit, et mon devoir ce matin, c'est encore de vous rappeler. Sans la sanctification, nul ne verra. Quel formidable avertissement, quel terrible avertissement. Combien nous avons besoin d'être fidèles au Seigneur, de faire de bons choix dans notre vie de tous les jours, de compter sur sa grâce pour être fidèles à sa parole. Dans une anecdote que vous avez peut-être déjà entendue, parce que vous avez, vous, des toiles d'araignée dans vos vases. Non. Il n'y avait pas de toile d'araignée. Il y a un frère qui priait dans une réunion de prière, « Seigneur, enlève les toiles d'araignée qui sont dans mon cœur. » Première réunion de prière. Deuxième réunion de prière, « Père, enlève les toiles d'araignée qui sont dans mon cœur. » troisième réunion et tout, etc. Jusqu'au jour où il y a un frère qui était un petit peu énervé. Il dit, Seigneur, de grâce, tue l'araignée qui est dans son cœur. Et oui, sans la mort à nous-mêmes, il est impossible de servir le Seigneur sans connaître de terribles blessures. Sans mort à soi-même, il est impossible de servir le Seigneur sans faire de dégâts. Nous avons besoin de nous engager dans ce chemin-là, que le Seigneur nous aide et nous fasse grâce. Alors, à votre avis, est-ce que nos moments de louange pourraient être plus enflammés? Pas de chose, peut-être pas trop. Je sais pas. Je ne parle pas des chants. Je parle du moment où on élève chacun la voix, où on peut élever chacun la voix vers le Seigneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme ce serait beau que tout le monde dise un mot, quelques mots. On était arrivé à ça dans une assemblée il y a un certain nombre d'années. Hein. On était arrivé, enfin, pas parfaitement, mais c'était pas mal. Si quelqu'un peut dire « Merci Seigneur parce que tu m'as pardonné », puis l'autre, « Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé, merci Seigneur parce que tu m'as béni », c'est ça. « Merci Seigneur parce que cette semaine tu m'as consolé ». Quelques mots, c'est à la portée de tous. Je sais que quelquefois certains ne veulent pas élever la voix parce que j'en ai quelqu'un qui fait une belle prière, puis après bah, ils sont un peu dans leur petit soulier, ils disent « Moi je ne peux pas prier parce que tu les pries si bien ». Quelques mots mes frères et sœurs, comme ça serait beau que chacun, dans ce moment, ouvre sa bouche, élève sa voix pour dire « Merci Seigneur, pour vous donner gloire à Dieu ». Que le Seigneur nous aide sur ce chemin-là. Il y a des progrès à faire, non? Vous n'en avez pas envie? D'entendre tout le monde, que chacun puisse dire quelques mots, deux, trois, quatre mots. Ça serait bien. Alors, il faut que nos vases soient davantage remplis du Seigneur Jésus. Il faut qu'ils débordent davantage. Dans Luc 6, 45, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a un proverbe arabe qui dit « Un vase ne répand que ce qu'il contient. » Un vase ne répand que ce qu'il contient. Alors, le Saint-Esprit veut répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs, dans nos vases. Ah oui? C'est le Saint-Esprit veut le faire absolument. Hein? Et dans les vases qui ont été purifiés, là où le sang de Christ est passé, il va répandre l'amour de Dieu, la nature même de Dieu. Alors, s'il y a de l'amour dans le vase, cet amour de Dieu, si infini, si merveilleux, ben le vase il va déborder, c'est pas possible qu'il soit autrement. Hein? L'amour, c'est quand même pas le résultat d'un calcul. « Oh, je vais l'aimer comme ça va être plus gentil avec moi. » Bon, non, c'est pas ça. Hein. D'une décision. « Oh, bah tiens, celui-là, tiens, je vais l'aimer, celui-là. » Non, ça ressemble à rien. Ou d'un effort. « Oh, je vais faire des efforts, là. » Moi, je fais pas d'efforts pour aimer ma femme. Hein. Mon épouse, Josiane, hein. C'est une femme formidable. Si je lui disais « Je vais faire des efforts pour t'aimer. » Tiens, non, ça vaut rien, ton truc, là. Je l'aime, c'est tout. Comment vous dire? C'est un débordement. L'amour, c'est ça. Que le Seigneur nous aide. Dieu a donné un ordre, d'ailleurs. On ne paraîtra pas à vide devant ma face. Alors ça me fait quand même un peu réfléchir. Je me dis, mais est-ce qu'on arrive à vide, nous, dimanche matin? Bon, il y a des circonstances particulières. Hein. On est bien d'accord. Il y a des souffrances. Il y a des peines qui sont très lourdes à porter. Hein, si un frère ou une sœur est entré ce matin avec une peine, avec un fardeau, qu'il ne reparte pas avec ce fardeau. Hein, il faut le partager, il faut qu'on prie les uns pour les autres, on est appelé à porter nos fardeaux les uns les autres. Hein? Mais on ne devrait pas arriver à vide. C'est pas normal. L'Église, bah c'est un lieu, bien sûr, où on va se fortifier, on va entendre la parole, on va recevoir bien des bénédictions, c'est certain. Mais nous sommes appelés à venir déborder dans l'Église. C'est ça le but. C'est un culte de louange et d'adoration. Si on arrive tout à vide, on n'a rien à apporter. Il y a un chant qu'on chantait dans le passé, d'ailleurs ce vieux, il n'est même plus dans les petits chœurs, les chœurs et cantiques. Il déborde, plein de joie, mon cœur déborde, depuis que Jésus m'a lavé de mon péché, mon cœur est plein, il déborde. Amen. Oh, ça nous faisait du bien ces réunions d'évangélisation là, non? Ouais. On ressortait plein de joie, oui, puis on avait exprimé l'expression de nos cœurs. Et quand le cœur déborde, la bouche, elle l'exprime avec force, elle l'exprime avec enthousiasme. Moi, j'aime bien ce mot enthousiasme parce qu'il y a le mot théose dedans. Il y a le nom de Dieu dedans. L'enthousiasme. Amen. L'Esprit de Dieu, s'il est en nous, il va nous conduire à glorifier notre Seigneur et à déborder dans la louange et l'adoration. Alors, nous avons un ennemi qui voudrait faire de nous des vases vides. Mais oui. Il voudrait faire de nous des vases vides. Bon, dans Jérémie 51, il est écrit « Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite, il a fait de moi un vase vide. » Bon, on peut voir notre ennemi partout. Ça, c'est pas normal, hein, c'est un déséquilibre. Mais nous avons besoin d'être conscients du but qu'il s'est donné, hein, de ce qu'il veut faire. De Corinthiens 2,11 dit d'ailleurs de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Ses desseins, c'est prendre ce qu'il y a de plus précieux dans nos vases et de faire de nous des vases vides. Nous risquons de lui laisser l'avantage si nous allons remplir nos vases volontairement d'impureté. David disait en son temps, c'est au psaume 101, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Bon, » il y a des choses mauvaises, on ne peut pas s'empêcher de les voir. Quand vous êtes dans le monde, on en voit des choses qui ne sont pas belles. Hein. Et qui nous font mal au cœur, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis il y a tout ce qu'on pourrait peut-être s'éviter de voir. Il y a ce que Dieu n'approuve pas, qu'il n'est pas utile peut-être de regarder volontairement. Lors de la tentation, vous savez, Ève, elle a laissé ses yeux se poser sur l'arbre défendu. Et voilà le résultat, c'est que la femme vit que l'arbre était bon, et qu'il était agréable à la vue, et bien sûr, la convoitise des yeux a été le premier pas qui a fait entrer le péché dans le monde et polluer la création entière. Les choses modernes, les écrans, sont une source extraordinaire de connaissances. Hein. Nous, à la maison, quand on se pose une question, quelque chose, j'attrape le smartphone, dit ah, « Que dit monsieur, je sais tout ?» Clac, clac, clac. Et en général, on a la réponse, et c'est quand même bien pratique, hein. Bien des choses, ça nous dépanne bien, hein. C'est extraordinaire. Les choses modernes sont quelquefois utiles. Puis chaque matin, vous savez, on a l'habitude, on écoute la Bible en un an. Hein, c'est pas mal, il y a en audio, il y a un texte du Nouveau Testament, un texte de l'Ancien, un texte des Psaumes, et un verset ou deux du livre des Proverbes, ça dure 15 minutes. Je ne sais pas si vous avez 15 minutes et que vous avez, comme moi, la vue qui, avec le temps, fatigue un petit peu, c'est excellent. De toute façon, c'est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors ça, ce sont des choses extraordinaires. Hein. On ne peut pas acheter tout, il y a des choses bonnes. Il y a sur Internet aussi de bonnes prédications, de bonnes méditations de la parole de Dieu. Puis il y a aussi n'importe quoi. Il y a aussi n'importe quoi. On est bien d'accord? Il y a le meilleur, puis il y a ce qu'il y a le plus bas dans ce monde, sur ces choses-là. Nous avons besoin Que le Seigneur nous remplisse de sagesse, vous savez, de discernement. Nous vivons dans un monde qui est plein de pièges et de tentations. Or, vous le savez, on vous l'a dit souvent, il y a une question qui est toute simple. Que ferait Jésus ? C'est à nous de nous poser cette question dans tout ce qui est notre activité, dans tout ce que nous faisons dans ce monde. Hein ? Que ferait Jésus ? Très souvent, ne serait-ce que poser la question, ça, tout de suite, hein, vous avez la réponse. Vous voyez, dire, ah ben non, Seigneur, tu ferais pas ça, tu dirais pas ça. Alors, je vous pose une question, mais vous ne me répondez pas, hein, vous gardez la réponse pour vous. Que mettons-nous dans nos vases le samedi soir, par exemple ? Est-ce que nous mettons des choses pures, des choses spirituelles, afin de nous préparer au culte du dimanche matin ? Non ? Bah, bon, c'est vrai que chaque jour, nous avons besoin de nous nourrir, hein, nous avons besoin d'exprimer notre prière devant le Seigneur, bien évidemment. Mais est-ce que nous nous préparons pour nos réunions ? C'est quand même intéressant, ça, non ? C'est une question que je me pose, hein. Vous pensez ce que vous voulez, hein. 2 Timothée 2,21 dit « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses mauvaises, hein, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Amen. Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Il n'est pas raisonnable d'y mettre n'importe quoi. Il est bon que ce soit la bonne odeur de Christ qui s'exhale. Pour être heureux dans notre activité, il nous faut avoir des vases qui soient pleins et qui débordent. Plein de l'Esprit de Dieu, ce doit être notre recherche journalière, désirée. Je lisais encore ces jours-ci quelque chose, un frère qui avait écrit ça, mais il y a très longtemps. Il disait, le problème de nos sociétés occidentales, c'est que les gens n'ont plus de désir. Ils n'aspirent plus à rien. Ils se sont contents de ce qu'ils ont. Nous avons besoin d'avoir des désirs spirituels. Amen. D'avoir faim, d'avoir soif. Est-ce que nous avons encore soif de la parole de Dieu ? Est-ce que nous avons soif de sanctification ? Je sais pas. Est-ce que nous désirons les dons spirituels ?
Éphésiens 5,18 nous dit, je vous livre dans la traduction Sommeur, « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Or, à votre avis, pourquoi c'est écrit constamment ? Bizarre ça, hein ? Constamment ? Bah, d'abord parce que le but, c'est que le vase y déborde. Voilà. Hein, si on est constamment rempli, le vase, il arrive à être plein, hop, il déborde. Si je suis rempli de l'Esprit, je vais aussi manifester le fruit de l'Esprit, je vais désirer les dons du Saint-Esprit, et je vais manifester les dons du Saint-Esprit avec le fruit de l'Esprit, bien sûr. Si nous sommes fidèles et nous gardons pur, la source de l'Esprit ne tarira pas en nous. Nous avons une magnifique illustration, c'est dans 2 Rois chapitre 4. Vous savez, cette veuve insolvable à qui Élisée dit « Mais qu'est-ce que tu as dans ta maison ?» Elle dit « J'ai un vase d'huile. Je n'ai qu'un vase d'huile chez moi. Ta servante, exactement, n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Mais miraculeusement, son vase d'huile, il en a rempli des vases, tous les vases du voisinage qu'elle a réussi à récupérer. Et ça s'est arrêté quand il n'y avait plus de vase. Vous le savez. Alors, bon, je vais conclure. Hein. C'est déjà pas mal, je voulais parler si longtemps, hein, je suis un vieux. Bon, Seigneur me donne la force. Mais puissions-nous être ce vase qui déborde. Nous avons besoin d'avoir soif, d'avoir des désirs spirituels intenses, d'avoir envie que ça déborde. Un vase qui soit capable de remplir tous les vases du voisinage. Non ? Vous avez envie ? Amen. Alors, désirons, ayons des désirs spirituels, désirons, aspirons à une communion plus intime encore avec notre Seigneur, à une vie spirituelle plus intense. Ayons des réserves d'huile. Jésus